êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'études sur les conversions dans le livre des Actes avec une troisième leçon sur la conversion de 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Dans notre série d'études sur les conversions dans le livre des Actes, nous avons déjà consacré deux études aux 3000 personnes qui sont devenues chrétiennes à Jérusalem le jour de la Pentecôte, les tout premiers convertis. Compte tenu de l'importance de ce récit, nous allons consacrer une dernière leçon à cette histoire de conversion avant de continuer avec les autres récits. Nous insisterons aujourd'hui sur le baptême et sa suite. Nous avons vu la semaine passée que la foule qui écoutait le sermon de l'apôtre Pierre crut en Jésus. Les gens ont demandé « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ces gens ayant déjà cru en Jésus, Pierre leur parla de deux autres conditions qu'ils devaient remplir avant d'être sauvés, la repentance et le baptême. Le mot baptême vient d'un mot grec, baptizo, qui signifie littéralement immerger, submerger, ensevelir, plonger. Il s'agit normalement d'une immersion dans l'eau. En Acte 10, verset 47, Pierre, en parlant des premiers non-juifs à venir au Christ, a demandé si on pouvait leur refuser l'eau du baptême. En Acte 8, verset 36, l'eunuque éthiopien qui venait d'entendre l'évangile demanda « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Éphésiens 5, verset 26 rappelle à l'Église qu'elle avait été purifiée par le baptême d'eau. Il y a des versets qui parlent du fait que le Seigneur baptiserait du Saint-Esprit. Mais contrairement à ce que certaines personnes enseignent, ce n'est pas là le baptême dont Pierre parle en Acte 2, 38. En effet, en Acte 2, comme en Acte 10, verset 48, Pierre ordonna qu'il fût baptisé. C'était un commandement. Le baptême du Saint-Esprit ne pouvait être ordonné. On parlait plutôt d'une promesse de quelque chose que Dieu et non les hommes feraient. Nous voyons cela clairement en Acte 1, verset 4 et 5, où Jésus parle à ses apôtres avant de remonter au ciel. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quelque chose ne peut être en même temps un commandement et une promesse. Le baptême d'eau est un commandement. Le baptême du Saint-Esprit était une promesse. Une autre fausse idée concernant le baptême en Acte 2 est que le chrétien est baptisé à cause du pardon des péchés. Bibliquement, un chrétien ne reçoit pas le baptême. Un pécheur, c'est-à-dire un homme perdu, reçoit le baptême afin d'être sauvé et de devenir chrétien. À cause des préjugés, surtout dans le monde protestant, on rencontre souvent l'idée que le baptême vient après le salut. On tient forcément à divorcer le baptême de l'obtention du salut. Il y a même une édition du Nouveau Testament, appelée « Parole vivante », qui a rendu Acte 2, verset 38 ainsi. « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, cela signifierait que vos péchés sont pardonnés. » Sans vouloir jeter le discrédit sur cette édition du Nouveau Testament dans son ensemble, il faut dire que rendre le verset de cette façon est totalement sans justification, ni dans le sens des mots grecs, ni dans le contexte d'Acte 2, ni en considération des autres passages bibliques qui parlent du baptême. Le mot grec qui est généralement traduit « pour » dans ce verset, « pour le pardon des péchés », est le mot « es ». Il est employé communément en grec pour désigner un objectif, une destination, le résultat d'une action ou d'une condition. Il est rendu en français par les mots afin de ou afin que, en sorte de, pour, en, dans le but de. Ainsi, nous trouvons les traductions suivantes de notre texte en acte 2, verset 38. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. La tobe, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus, le Messie, pour obtenir le pardon de ses péchés. La Bible des communautés chrétiennes. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. La version Darby. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir la rémission des péchés. La Bible d'Osterwald. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La version Louis II. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La nouvelle version seconde révisée dite la Colombe. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. La Bible en français courant. S'il y avait encore des doutes concernant la traduction du mot « es », on peut souligner qu'en acte 2:38, nous avons exactement la même expression grecque qu'en Matthieu 26, verset 28, où Jésus a institué le repas du Seigneur et dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Évidemment, le sang de Jésus n'a pas été versé parce que le pardon des péchés était déjà donné. Il n'est pas mort à cause du pardon déjà accordé. Son sang fut versé sur la croix pour la rémission des péchés, c'est-à-dire afin que nous ayons le pardon. De même, on n'est pas baptisé pour montrer que ses péchés sont déjà lavés. Bibliquement, on le fait afin d'obtenir le pardon rendu possible par la mort de Jésus. Voyons enfin, dans le récit du jour de la Pentecôte, ce qui suivait le baptême. La première chose est nommée dans la dernière partie du verset que nous venons d'examiner, acte 2:38. C'est la promesse qui accompagne l'ordre de se faire baptiser pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont été baptisés en ce jour ont reçu le pouvoir de parler en langue ou de faire d'autres miracles. Quelques versets plus tard, nous voyons que les miracles étaient attribués seulement aux apôtres. Acte 2:43 dit « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » En 1 Corinthiens 12, verset 13, l'apôtre rappelle aux chrétiens qu'ils avaient tous été abreuvés du Saint-Esprit. Mais au verset 29 du même chapitre, il dit que tous n'avaient pas le don des miracles, et d'ailleurs que cela était tout à fait normal. Ce n'est pas non plus que le chrétien est inspiré, ou que l'Esprit lui parle à l'oreille pour lui dire comment agir à chaque instant. L'Esprit nous guide par la parole de Dieu que les apôtres nous ont transmise par l'inspiration de l'Esprit. Comme Paul dit aux Thessaloniciens, « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Qu'est-ce donc que le don du Saint-Esprit, s'il ne s'agit pas de pouvoirs miraculeux, ou si l'Esprit nous parle non pas directement, mais à travers la Bible. Il s'agit de la présence de l'Esprit de Dieu lui-même en nous. Nos corps deviennent des temples de l'Esprit qui demeurent en nous, les chrétiens, qui nous aident dans la vie que nous devons mener, qui intercèdent pour nous quand nous prions, qui nous motivent et qui produisent en nous des qualités qui plaisent à Dieu, les fruits de l'Esprit. Éphésiens 3, verset 16 dit que Dieu nous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et en Romains 15, verset 13, Paul exprime ce souhait pour les chrétiens à Rome. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous pensons à la suite du baptême en acte 2, nous voyons que les convertis ont continué fidèlement dans la nouvelle vie chrétienne. Acte 2, verset 42 dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le baptême n'est pas comme un diplôme qui couronne des efforts déjà fournis. Il marque la fin d'une vie en dehors de la volonté de Dieu et le début d'une vie consacrée à son service. Pour avoir de la valeur, il doit être suivi de fidélité, non pas de perfection, ce qui n'est pas possible aux hommes faibles que nous sommes, mais d'efforts sincères et constants de suivre la parole de Dieu. C'est ainsi que les premiers chrétiens ont continué, après leur baptême, à s'instruire aux pieds des apôtres, à s'associer régulièrement entre chrétiens, à adorer Dieu en observant le repas du Seigneur et en priant. Évidemment, on n'est pas chrétien tout seul dans son coin. Au contraire, Actes 2,47 nous dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La conversion des gens le jour de la Pentecôte montre la grande importance de la proclamation de l'Évangile, ce qui produit la foi en Christ. Elle nous montre que le salut est gratuit, mais il n'est pas inconditionnel. Le pécheur doit croire, se repentir et se faire baptiser. Le baptême en vue n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême d'eau pour le pardon des péchés. Et ce baptême doit être suivi d'une vie fidèle au sein de l'Église que Jésus a fondée. Vous êtes-vous converti comme les 3000 personnes à Jérusalem le jour de la Pentecôte? Dieu vous invite à le faire aujourd'hui.